Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un document assez singulier. C'est le discours d'inauguration d'une école publique à Neuvy, qui a été prononcé le 31 janvier 2026. L'école a été nommée Simone Leveillé, et notre but, c'est de comprendre un peu qui était cette femme, et pourquoi son histoire, aujourd'hui, est vue comme essentielle à transmettre aux enfants. Ce qui est très fort, c'est que ses propres enfants, Claude et Christine, étaient là. Ça ancre tout de suite l'hommage dans quelque chose de très réel, de très personnel.
Oui, tout à fait. Et ça donne le ton. Le discours le dit très bien, d'ailleurs. Choisir un nom pour une école, c'est jamais anodin. C'est un acte qui engage l'avenir. Le nom doit inspirer et guider. Donc, le choix de Simone Leveillé, c'est pas juste pour honorer une mémoire, quoi. C'est vraiment un choix de valeur. Le discours est très clair là-dessus. Il liste l'égalité, la tolérance, la solidarité, l'esprit de justice. Mais il y a un vrai fil rouge qui traverse tout. La culture de l'engagement.
La culture de l'engagement, c'est un concept puissant à mettre au fronton d'une école primaire. Alors justement, parlons-en. Le discours nous dresse un portrait de cette Simone Leveillé. On est en 1940, elle a à peine 20 ans. Et il y a ce détail qui frappe tout de suite. Le texte mentionne sa taille, 1,55 m tout juste, pour dire juste après que c'est une femme immense de détermination et de courage. Le contraste est saisissant.
Il est fondamental, parce qu'il dit tout de suite, la force, elle n'est pas là où on l'attend. Et ce qui est intéressant avec ce choix, c'est que ça s'inscrit dans une tendance de fond en France depuis, je pense, une vingtaine d'années. On sort de l'ombre les femmes de la résistance. On a longtemps eu ce récit des grands généraux, des figures masculines du Panthéon. Là, on va chercher l'héroïsme à l'échelle locale, chez une femme qui n'était pas du tout prédestinée à ça, et on en fait un modèle. On passe du soldat connu à la soldate de l'ombre.
C'est d'une excellente mise en perspective, ça. Et son engagement, justement, le discours le décrit comme immédiat. Face à l'occupation, son choix, c'est de rester debout, refuser la servitude. Pas de doute.
Aucun. Le texte dit même qu'en 1941, elle est impatiente d'entrer dans l'action. Il n'y a pas d'attentisme, son engagement est très concret, très ancré sur son territoire. Elle commence par collecter des renseignements sur le trafic des trains allemands à Moulins. Le discours nous fait presque marcher avec elle, à pied et à bicyclette, de la rue de Bourgogne à l'église Saint-Pierre. On imagine cette jeune femme qui observe, qui note, alors que chaque soldat croisé est un danger de mort.
Ce que vous décrivez comme un engagement concret, ça me fait penser que le risque est donc permanent, quotidien. C'est pas une grande opération spectaculaire de temps en temps.
C'est exactement ça. C'est une tension de tous les instants. Le danger se niche dans la banalité. Mais justement, le discours montre qu'elle ne s'est pas contentée de ça. Son action va très vite monter en intensité.
C'est-à-dire qu'on passe de l'observation à l'action directe.
Tout à fait. Elle transporte des documents, elle distribue des journaux clandestins, souvent la nuit. Elle devient une agente de liaison essentielle pour un avocat de Moulins, maître Maurice Tinland. Et elle franchit régulièrement la ligne de démarcation au pont Régé-Morte. Faut s'imaginer ce que c'était, hein. Une vraie frontière, gardée, qui coupait la France en deux. Rien que de la franchir, c'était un acte de défi. Mais il y a un fait, un seul, raconté dans le discours, qui dépasse tout le reste.
Attendez, je crois savoir de quoi vous voulez parler. C'est cette histoire de traversée de l'Allier ? Ça paraît complètement fou.
C'est fou. On est en juin 1942. Elle a 23 ans. Sa mission, faire passer des agents de renseignement en zone libre. Et le moyen choisi, c'est pas un passage secret, c'est pas des faux papiers. Le discours le dit avec une simplicité désarmante. Elle traverse l'Allier à la nage, avec eux.
C'est à peine croyable. On parle pas d'un petit ruisseau. L'Allier, en juin, ça peut avoir un courant très fort. Et de nuit, j'imagine.
Le discours reste sobre, ce qui rend la scène encore plus forte. Mais on peut imaginer, oui. L'eau froide, l'obscurité, le silence, et la responsabilité de guider d'autres personnes qui lui confient leur vie. Ça nous dit deux choses. D'abord, son courage, physique et mental, qui est hors du commun. Et ensuite, la confiance absolue que son réseau avait en elle. On ne confie pas une mission pareille à n'importe qui. C'est la preuve qu'elle est déjà perçue comme un agent d'élite.
Et ça me fait penser qu'on oublie souvent cette dimension physique de la résistance. On pense au message codé, au sabotage, mais pas forcément à l'endurance pure, à la performance presque athlétique que ça demandait. Traverser une rivière glacée ou, comme on va le voir, faire des centaines de kilomètres à vélo.
Vous mettez le doigt sur un point essentiel. Et cette montée en puissance, elle se confirme dès 1943. Son rôle change de dimension. Le discours explique qu'elle passe d'un réseau à un autre, ce qui est très risqué. Ça l'oblige à devenir clandestine. C'est là qu'elle adopte des pseudonymes, d'abord Claire, puis Anne-Marie.
Ah oui, ce changement de nom, c'est le signe qu'elle entre dans une autre phase, plus professionnelle, plus dangereuse aussi.
C'est exactement ça. Utiliser des pseudos, changer de réseau, ça montre qu'elle est désormais un agent identifié, compétent, et donc aussi une cible. Elle n'est plus la jeune informatrice de Moulins, son terrain d'action explose géographiquement. Le discours cite Montluçon, Bourges, Châteauroux, Limoges, Ussel. Elle devient une agente de liaison à l'échelle de la région.
Et ses missions aussi deviennent plus stratégiques, j'imagine.
Beaucoup plus. Elle ne fait plus que transmettre des messages. Elle collecte elle-même des renseignements dans toutes ses villes. Le texte précise qu'elle transporte parfois des explosifs. Cette simple phrase, ça fait froid dans le dos. Et elle est devenue un maillon logistique crucial. Elle remet à chaque agent son plan de travail pour les jours suivants. Elle est vraiment au cœur de la planification.
Et c'est là qu'interviennent ces fameux trajets à vélo. J'avoue que ce passage m'a marqué.
Il y a de quoi. Quand les trains ne circulent pas, à cause des bombardements ou des sabotages, elle n'annule pas ses missions. Elle prend son vélo et les distances sont folles. Le discours cite Montluçon-Clermont-Ferrand en 2 jours. C'est plus de 100 km avec le dénivelé Auvergnat. Ou encore Ghana-Montluçon, puis Montluçon-Moulins, également en 2 jours.
J'ai du mal à faire ça en voiture sans m'arrêter pour un café. Ça vous ancre la réalité de leur quotidien d'une manière brutale. On est loin de l'image un peu romantique de la résistance. C'est une histoire de fatigue, de muscles qui brûlent, de faim.
C'est l'héroïsme de l'endurance. Et c'est important que le discours le souligne. Il montre aux enfants que le courage, ce n'est pas seulement l'acte d'éclat. C'est aussi la ténacité. Évidemment, tout cet engagement a été reconnu après la guerre. Le discours mentionne qu'en 1948, elle reçoit la Croix de guerre avec étoile d'argent et la médaille de la Résistance. Ce ne sont pas des médailles honorifiques. Ce sont des décorations qui attestent de faits de guerre, d'une contribution exceptionnelle.
D'accord. On a donc le portrait d'une femme exceptionnelle. Revenons maintenant à 2026, à cette inauguration. Comment le discours fait le pont entre cette histoire et les enfants assis devant lui? Comment il rend cette histoire pertinente aujourd'hui?
Il le fait de manière très habile, en reliant le combat de Simone Léveillé aux valeurs de la République. Le texte cite notre devise « liberté, égalité, fraternité ». Et il dit que pour Simone et ses compagnons, ces mots, c'était pas une abstraction gravée sur un mur. C'était une réalité à conquérir, une raison de vivre et de mourir. Son combat pour la liberté, ses rêves d'égalité, c'était le moteur.
Ça personnifie la devise, ça la rend incarnée. C'est une bonne façon de la faire comprendre aux plus jeunes.
Et pour la rendre encore plus tangible, le discours utilise une dernière image, une métaphore très forte. Il révèle qu'un chêne a été planté devant l'étole. Le chêne, symbole de longévité, de force et de résistance. Et c'est là que la rhétorique devient vraiment brillante. Le texte ne se contente pas de dire « le chêne est résistant » comme Simone. Il construit ce qu'il appelle une triple analogie.
Une triple analogie. Alors, il y a la résistance du chêne, la force de la nature. Il y a évidemment la résistance de Simone face à l'oppression. Quel est le troisième élément? J'imagine que c'est un lien avec le lieu même, l'école.
Vous y êtes. Le troisième pilier, c'est la résistance de l'école. L'école comme rempart contre l'ignorance. Le savoir qui résiste à l'obscurantisme. Et là, le discours met ces trois formes de résistance en parallèle. Un arbre, une école, une femme. La résistance de la nature, la résistance du savoir et la résistance de l'être humain. Ça donne une toute autre dimension à l'hommage. Ça le rend universel. On ne célèbre plus seulement une personne, mais un principe.
C'est magnifique comme construction. Ça relie l'héroïsme humain à quelque chose de plus grand, de plus permanent. D'ailleurs, le discours joue sur cette idée. Il dit qu'elle pourrait être une héroïne romanesque, mais qu'elle est plus que cela. C'est pas un personnage de fiction, c'est une femme vibrante de vie, de témérité et de conviction. Et il y a cette formule que j'ai trouvée sublime, elle oppose son sourire lumineux aux ténèbres de l'histoire.
Ce sourire lumineux, c'est un détail psychologique qui est crucial. Il suggère qu'au-delà des actes de bravoure, des muscles et de la stratégie, elle a su préserver son humanité. Et c'est peut-être la forme de résistance la plus difficile. Ne pas laisser la haine et l'horreur vous dévorer de l'intérieur. Résister avec son esprit, pas seulement avec son corps.
C'est la victoire ultime, en quelque sorte. Et la conclusion du discours est un vrai coup de poing émotionnel. Il s'adresse directement à elle, par-delà le temps. Je cite la fin. « Vous avez fait de votre jeunesse un combat d'espérance. Vous rêviez de lendemain meilleur. » Et la toute dernière phrase, qui justifie tout, « Parce que vos lendemains, Simone, sont notre présent. »
C'est une reconnaissance de dette. C'est dire aux enfants, et à nous tous, la paix, la liberté dans laquelle on vit, bah, ce n'est pas un dû, c'est un héritage. Un héritage fragile, construit sur le sacrifice de gens comme Simone Lévillé. Finalement, ce discours est un merveilleux exemple de la façon dont une communauté construit sa mémoire collective. Elle ne choisit pas une star ou un homme politique, elle choisit une jeune femme de son territoire pour incarner des valeurs.
Ça rend l'exemplarité accessible, presque tangible. On quitte le panthéon des figures inatteignables pour l'histoire d'une jeune femme du coin qui a fait des choix extraordinaires dans des circonstances extraordinaires.
Précisément. Et c'est peut-être la question que ce texte nous laisse en suspens, à nous qui ne vivons pas sous une occupation.
Laquelle ?
Le discours dit qu'elle oppose son sourire lumineux aux ténèbres de l'histoire. Ça nous amène forcément à nous interroger sur ce que ça signifie aujourd'hui d'opposer une forme de lumière aux ténèbres. Le courage, est-ce qu'il se trouve uniquement dans les grands actes de défi, dans la résistance frontale ? Ou bien est-ce qu'il se niche aussi, et peut-être surtout, dans la capacité quotidienne à préserver son humanité, à cultiver l'empathie, à refuser le cynisme, à maintenir l'espoir quand tout pousse au découragement ? La grande question n'est peut-être pas « aurions-nous été des héros en 1942 ?» mais plutôt « comment être simplement humain et digne, ici et maintenant ?»